avis sur le numérique et ses transformations. On a commencé au mois d'avril dernier avec d'abord des interventions qui étaient plus académiques, qui ont été portées par des chercheurs, puis depuis l'intervention d'Ariane Bittner, des présentations qui sont plus articulées sur retour réflexif de praticiens, essayer de penser à leur métier, de dire comment ils le perçoivent. J'ai eu la chance d'avoir l'intervention de Pierre-Alain Pagnon, qui est urbaniste, qui a fait une formation il y a quelques années en géographie, ici à Genève, et puis qui a travaillé au domaine de la statistique appliquée au territoire à l'EFS, et puis qui est en apprenant depuis maintenant une dizaine d'années. Une personne qui a aussi une expérience d'autres milieux que ceux de l'urbanisme au sens strict. Et on va avoir un regard sur ce que c'est le métier. Pierre Alain est responsable, co-responsable du marché vaudois, responsable associé du marché vaudois, adjoint.
Tout à fait précis.
D'accord, responsable adjoint du marché vaudois pour Bapin. Parce que tout le monde connaît le bureau de Bapin dans la salle. Qui ne connaît pas le Bapin? Donc je vais laisser Pierre Alain se présenter plus haut. Puis le même format que d'habitude, une intervention qui dure généralement autour de 45 minutes. Et puis un moment de discussion avec la salle à la fin. Vous n'hésitez pas aussi à poser ou interrompre la si vous avez besoin de précision, etc. Donc je vous ai encore sur la main, sous la main. J'attends le dernier. Bonjour, j'attendais. Comme je vous ai encore sous la main, vous pouvez prendre note de la prochaine conférence qui est ce vendredi déjà. Vendredi 12h15, 13h30, une intervention de Bernard Geoffrey, qui est chef du service d'urbanisme de la ville de Nyon, qui réfléchira aussi au devenir des équipes de l'urbanisme. Ce sera dans le même lieu de salle, 12h30. Merci Pierre.
Merci, bonjour à vous tous. Donc, Laurent m'a déjà un petit peu présenté. Je reviens juste sur quelques éléments de mon parcours. Donc, j'ai fait de la géographie humaine en ville à Genève au début des années 90, dans le but de devenir urbaniste. Mais les aléas, les opportunités de la vie ont fait que j'ai pris pas mal de détours et que je suis en fait chez Urbapin et j'ai commencé véritablement ce métier, bien que j'y touchais un peu par d'autres aspects, il y a peut-être 9 ans chez Urbapin. Donc, c'est pas forcément pour parler de moi, mais comme on s'intéresse à ce qu'est faire de l'urbaniste, on s'intéresse aussi à qui sont les urbanistes aujourd'hui. Et puis, donc, je trouve intéressant de savoir quel est le parcours aussi des gens qui font de l'urbanisme aujourd'hui. Alors, le mien, il est peut-être un peu particulier, mais je crois qu'il y a de plus en plus de parcours comme le mien, de gens qui ont fait d'autres choses et qui arrivent aujourd'hui à faire de l'urbanisme. On aura l'occasion de revenir sur cette question. Vous voyez qu'avec ma modeste expérience, l'idée, c'est pas que je vais vous expliquer ce que c'est faire de l'urbanisme, mais plutôt moi j'envisage ça comme un moment de partage de quelques expériences et un moment d'échange aussi avec vous. Pour Urbapin, apparemment tout le monde connaît Urbapin, mais peut-être en quelques mots, quelques rappels. Donc c'est un bureau qui s'occupe évidemment de tout ce qui touche au développement territorial. Il y a à peu près 70 collaborateurs aujourd'hui sur 4 sites, donc Lausanne principale, Genève, Fribourg et Neuchâtel. Et puis on a aussi des activités dans le canton du Jura, et c'est d'ailleurs de ces activités-là que je vais vous parler aujourd'hui. 70 collaborateurs avec des profils assez différents. Alors on a une grande majorité d'architectes et de géographes, je pense à peu près 50-50. C'est quand même assez... je me souviens qu'au début des années 90, les bureaux étaient plutôt composés de majorité d'architectes, donc c'est aussi une évolution dans le métier. On a aussi des ingénieurs en environnement, qui ont fait soit le génie rural à l'EPFL, on a des ingénieurs spécialistes qui ont fait des pièges en gestion de la nature. Et puis aussi quelques paysagistes, architectes paysagistes ou ingénieurs paysagistes pour les Français, certains Français. Donc on a un champ de compétences, on est beaucoup, mais on a un champ de compétences assez large. On travaille à différentes échelles, que ce soit l'aménagement concret, puis vous verrez quelques exemples de réalisation même, l'espace public, Et puis, ça peut aller jusqu'à une planification territoriale à l'échelle cantonale en Suisse, mais comme on a quelques activités en Afrique, ça peut être à l'échelle d'un demi-pays parfois. On travaille aussi à de très grandes échelles. Alors aujourd'hui, c'est peut-être un peu prétentieux de dire que je vais vous présenter ce qu'est faire de l'urbanisme pour Urbaplan, ce sera qu'une petite facette. Et je pense que si d'autres collègues veulent vous présenter nos activités, ils diraient autre chose. Je ne vais pas insister trop sur les projets eux-mêmes que je vais vous présenter, c'est plus sur les démarches. C'est les démarches qui sont importantes, c'est les postures de projets qui sont importantes. Parce que si je commence à vous présenter dans le détail ces projets, eh ben je pourrais passer le cours à vous présenter un seul projet. En revanche, j'ai choisi, mais j'y reviendrai tout à l'heure, de vous parler que de Delémont. Et puis je vous expliquerai pourquoi c'est intéressant de se concentrer sur un seul territoire, plutôt que de passer en revue et de se perdre peut-être dans différents projets. Alors, faire de l'urbanisme, je presse simplement sur le petit bouton, Laurent.
Sur la flèche. Non, pas là, pour tout déconnecter.
Ah, je peux presser sur la flèche. Ouais. Donc, je pense qu'il y a plusieurs professionnels dans la salle, peut-être des étudiants. Tout le monde, enfin, qui travaille de près ou de loin dans ce domaine, a été confronté en situation de devoir expliquer ce qu'est faire de l'urbanisme. Ce n'est pas très évident, pas toujours évident, ou alors on a toujours un peu l'impression que c'est incomplet, que ça ne couvre pas tout le champ de ce qu'on fait en urbanisme. Alors si on cherche des définitions, je les trouve assez frustrantes, un peu réductrices, spécialistes de l'aménagement de la ville, ils aménagent de nouveaux quartiers, réhabilitent ceux qui n'ont pas de bonnes conditions de vie à leurs habitants, il y en a plein d'autres. Mais chaque fois, on est un petit peu, on a l'impression que c'est un petit peu limité, parce que c'est un métier qui est à la fois complexe et vaste, comme on l'écrit là, et puis on travaille à plein d'échelles, on travaille plutôt sur le vide que sur le plein, mais tous ces aspects ne sont pas traités par ces définitions un tout petit peu simplistes. Alors on a travaillé avec une collègue qui s'appelle, je vais donner son nom parce que je vais présenter quelques-uns des projets aussi sur lesquels elle a travaillé, Élise Riedo, et puis on avait préparé cette présentation ensemble. On s'est posé la question, on a un peu brainstormé, et puis on s'est dit, faire de l'urbanisme, c'est en tout cas à l'intersection de l'urbanisme de trois champs, le champ technique, parce qu'on fait appel à des compétences qui relèvent de l'ingénierie, on doit connaître aussi les normes, les lois, c'est aussi le champ de l'humain, vous savez, pour ceux qui travaillent dans ce domaine, à quel point, et c'est de plus en plus le cas, on travaille avec une multitude d'acteurs, que ce soit les habitants, les usagers, les techniciens d'administration, les politiques, et on doit en fait travailler avec toutes ces personnes, toutes ces compétences. Et puis, le troisième champ, la créativité, parce qu'on est sans arrêt, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, en train de créer, de faire du projet, mais aussi d'inventer des nouvelles manières de faire, parce qu'on est confronté à des problématiques qu'on n'a encore jamais rencontrées. Donc ça, c'est une chose qu'on peut dire. Et puis ensuite, on a vraiment brainstormé, posé des termes pour essayer de couvrir tout ce qu'est selon nous l'urbanisme et faire de l'urbanisme. Alors, vous verrez que c'est assez... Il y a beaucoup de termes, je ne vais pas tous les commenter, mais je vais en commenter quelques-uns. Alors, raconter, évidemment, qu'on est souvent... quand on fait un projet de territoire, il s'agit de raconter une histoire, souvent. Et raconter le futur de ce territoire. Donc c'est une compétence qu'il faut avoir. Conceptualiser, c'est vraiment en vrac, hein. Je passe ça rapidement. En vrac, conceptualiser, on a souvent la nécessité de faire un effort d'abstraction pour mieux expliquer des idées, de simplification, faire du projet, j'en ai parlé, inventer, j'en ai parlé tout à l'heure, bricoler parfois parce qu'il faut faire avec ce qu'on a, parce que des fois les demandes, les attentes, les demandants ne sont pas tout à fait claires, donc on doit essayer de comprendre et faire avec les moyens du bord. Planifier, évidemment, pour anticiper, c'est même le cœur de notre métier. Faire une pesée d'intérêt, ça je trouve extrêmement important. L'urbaniste, en général, a cette vision d'ensemble, il n'est pas forcément spécialiste, et puis souvent on est confronté à des spécialistes, dans des séances notamment avec les services techniques, qui ont des idées très précises sur leur domaine de compétences, et nous on est là pour faire en sorte qu'il y ait une véritable pesée d'intérêt. Et ça, c'est aussi un des rôles importants, je pense, de l'urbanisme. Aider à faire les choix, ça, je trouve aussi extrêmement important. On a l'impression, des fois, on nous donne l'impression qu'on va pouvoir déduire, en fait, un projet d'un diagnostic très complet, Et alors que finalement, on accepte peu, ou en tout cas certaines collectivités acceptent peu le fait ou l'idée qu'à un moment donné, il faut faire des choix. On ne peut pas tout déduire comme d'un diagnostic qui serait soi-disant scientifique et duquel on déduirait un projet. Il y a vraiment une réflexion sur ce qu'on veut. Et puis, à un moment donné, il y a des choix à faire qui peuvent être arbitraires, il faut les assumer. Et parfois, on peut aider aussi les collectivités à faire ces choix. Bon, faire preuve de sensibilité, animer, puisqu'on travaille aussi beaucoup en démarche participative avec la population, avec des services, avec des politiques. Et donc, il faut aussi savoir animer des débats, des ateliers de travail, des démarches participatives. Vous commencez à voir qu'on a vraiment la grosse tête dans ce métier et que l'urbaniste est peut-être un être exceptionnel. Je tempérerai un peu cet élan tout à l'heure. Bon, je continue comme ça, je ne vais pas tout commenter. Dessiner, évidemment, il y a aussi des compétences en dessin, de rédaction, c'est très important. On est sans arrêt en train de rédiger des rapports, de faire des plans, identifier les leviers. Évidemment, il y a une exigence d'opérationnalité de ce qu'on propose, c'est ce que je montrerai à travers les projets tout à l'heure. Donc, d'identifier, quand on définit des objectifs un peu abstraits, c'est de faire en sorte qu'une commune, par exemple, dispose des leviers pour mettre en œuvre ce qu'on propose, etc., etc. Donc, comme je disais, on peut avoir l'impression que l'urbaniste est un être exceptionnel et se poser la question, est-ce que l'urbaniste existe? Donc ça, c'était le résultat de notre brainstorming. Et puis, on s'est dit, en fait, être urbaniste, c'est forcément être plusieurs, parce que, évidemment, personne n'a toutes ses compétences. Enfin, peut-être qu'il y en a parmi vous, je ne sais pas, mais en tout cas, on s'est dit que chez nous, personne n'a toutes ses compétences à la fois, et donc être urbaniste, faire de l'urbanisme, c'est faire ça à plusieurs, avec des compétences diverses, complémentaires. Alors c'est le cas à l'intérieur du bureau dans lequel je travaille, mais c'est aussi le cas des équipes qu'on est obligé de monter pour tous les projets. On travaille avec des spécialistes en mobilité, en environnement, en paysage, des sociologues aussi, parce qu'on a besoin aussi des sciences sociales en urbanisme. Donc pour dire que l'urbaniste, faire de l'urbanisme, c'est être plusieurs, c'est travailler de manière pluridisciplinaire, c'est de s'assurer d'avoir des compétences complémentaires. Chez nous, on travaille beaucoup en équipe, on travaille beaucoup en binôme entre architectes, géographes, d'autres spécialistes, et on est souvent aussi, en tant qu'urbaniste, des pilotes d'une équipe pluridisciplinaire. Ce qui nous paraissait aussi important de dire, c'est que faire de l'urbanisme, on n'a pas des méthodes toutes faites. On travaille chaque fois sur un territoire, à une échelle donnée, avec une équipe, un contexte spécifique. Et donc chaque projet, chaque intervention est différente. C'est très difficile, évidemment, d'appliquer une seule et même méthode. Donc il n'y a pas une méthode, mais c'est souvent du sur-mesure. Et on a tendance à dire qu'on a plutôt un savoir-faire que des méthodes. Certains ingénieurs en transport, par exemple, qui ont des méthodes et qui peuvent les appliquer un peu partout de la même manière. Je pense que ce qui fait aussi la spécificité de l'urbaniste, c'est cette capacité je te parlais d'inventer avant, de bricoler, c'est de faire du sur-mesure. Et puis, ça, c'est un vrai savoir-faire. Donc, on n'a pas des méthodes qu'on réplique, mais je pense qu'on sait s'adapter et analyser des situations particulières. Et puis, j'espère que c'est le cas de tout le monde, et puis on essaye aussi de défendre au sein du bureau, évidemment, l'intérêt général, ce sera en tout cas notre rôle, de faire en sorte d'optimiser les dépenses publiques, de défendre la qualité de vie, et puis aussi parfois de surmonter les conflits, parce qu'on est parfois un peu médiateur entre un canton, une commune, entre des privés, et on peut être amené à jouer ce rôle. Donc ça, c'est un petit tour, une petite introduction réflexive sur ce qu'est le métier d'urbaniste. On n'a pas fait le tour de la question, mais c'est pour vous dire qu'on s'est posé cette question. Et puis, on va finalement plutôt que vous proposer une réponse, parce qu'on n'en a pas véritablement. Là, c'est des questions, c'est des suggestions, ce sont des pistes. C'est simplement de vous montrer quelques-uns des projets sur lesquels on a travaillé à Delémont. Et puis, vous ferez votre idée par vous-même. Alors le choix de Delémont, C'est simplement, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, ça c'est la ville de Lémont, c'est qu'on ne peut pas tout vous présenter en une heure. On a eu la chance à Delémont de pouvoir travailler à différentes échelles et à différents moments de la planification, depuis la planification directrice jusqu'à des projets de réalisation concrète. Dans la durée, parce que ça fait très longtemps qu'Urbaplan est conseil pour la ville. Alors la ville, je vous rassure, elle fait appel aussi à pas mal de bureaux régionaux, mais c'est vrai qu'il y a des compétences qu'ils ne trouvent pas dans le canton du Jura, c'est des compétences peut-être qu'on a en termes de planification notamment, en termes d'espace public, de compétences d'architecte paysagiste, qu'ils ne trouvent pas sur place, et puis c'est un peu historique, voilà, ça fait depuis je crois les années 80 qu'on est amené à travailler, on ne fait pas tout, mais on a fait beaucoup de choses. Et puis je pense que c'est intéressant de se concentrer sur un territoire avec ses spécificités, ses acteurs, et de sortir peut-être aussi un peu de l'arc lémanique, parce qu'on a là, il y a des gros projets très complexes sur l'arc lémanique, on est aussi impliqué dans certains de ces projets, mais peut-être que ça change un peu, puis je suis assez content de vous présenter le dynamisme de cette petite commune de 12 000 habitants dans une région un petit peu décentrée, et peut-être, je ne sais pas si je me trompe, mais qu'on connaît trop mal, et puis peut-être qu'on n'imagine pas à quel point, dans une commune comme ça, on peut vraiment faire de l'urbanisme et avoir des beaux projets. Voilà, ça c'est juste une image pour vous montrer qu'on a travaillé, c'est vraiment très grossier, mais on a travaillé à l'échelle de la commune, on a autorisé la commune, c'est toutes les tâches de couleur, les secteurs particuliers sur lesquels on a travaillé, avec un plan directeur des espaces publics du centre-ville, on travaille actuellement sur la vieille ville, l'animation de la vieille ville, j'y reviendrai, tous les aménagements de la Sorne, c'est la rivière qui traverse la ville et qui fait un peu la qualité urbaine de Delémont, on a travaillé sur le plan directeur de la Sorne, l'aménagement des espaces publics le long de la Sorne, espace paysager, espace public, le plan directeur localisé au sud des voies, donc là vous avez la voie de chemin de fer qui arrive de Moutier du plateau suisse, qui s'arrête à la gare, la voie de chemin de fer qui amène à Bâle, et puis là-bas c'est la direction de Porrentruy. Vous avez cette véritable coupure qui a été créée avec l'arrivée de la gare à la fin du 19e siècle, la vieille ville qui est ici, puis avec l'arrivée de la gare, le développement de ce qui constitue aujourd'hui le centre-ville animé et intense de Delémont. Et puis, donc, comme je l'ai dit, cette qualité apportée par la Sorne, ce n'était pas le cas il y a encore une vingtaine d'années, mais depuis que la ville s'est penchée sur le sujet, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a vraiment pas mal d'aménagements, une relation à l'eau qui a été recréée, et donc la Sorne participe véritablement à la qualité de la vie dans la ville. Aujourd'hui, des projets ici avec un écoquartier, un grand parc, le parc de Delémont, qui est en cours d'achèvement. Je crois que même l'inauguration a lieu ces jours. Et puis différents autres projets plus ponctuels d'aménagement d'espace public. Particularité, peut-être qu'elle existe dans d'autres cantons, mais je ne connais pas tous les cantons non plus. Dans le Jura, là, je vais vous parler du plan directeur communal de Delémont, sur lequel on a travaillé entre 2014 et 2017, c'est que le plan directeur communal commence par ce qu'ils appellent une conception directrice. C'est le volet très stratégique du plan directeur communal. Dans la conception directrice, on définit des objectifs, des grands objectifs, c'est les buts à atteindre. Et puis dans la partie PDCOM, plan directeur communal, on définit les principes d'aménagement, donc comment on va parvenir à réaliser les objectifs, et puis le programme de mesure, le programme de mise en œuvre. Et la conception directrice fait véritablement l'objet d'une validation avant de passer à la suite du plan directeur communal. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'à partir d'un diagnostic assez succinct, basé sur des visites avec les acteurs locaux, sur de nombreux échanges avec les acteurs locaux, services techniques et politiques, mais assez rapidement, on a défini, je ne vais pas entrer dans le détail comme je vous l'ai dit, alors, c'est la démarche, en plus, on va vraiment très mal. On a rapidement défini les grands axes du développement territorial de la ville, de Delémont. On a formalisé à travers ces schémas, ils ne sont pas tous là, mais il y en a un certain nombre. Ces schémas, ils visaient assez rapidement à donner à voir les dynamiques en cours dans la ville, mais il ne s'agissait pas seulement de faire un relevé et de donner à voir des dynamiques existantes, c'était aussi d'orienter le futur du développement territorial de la ville. Je les passerai en revue rapidement. Donc, ce sont des schémas très simples qu'on a fait rapidement et qui finalement ont structuré, on s'est mis d'accord là-dessus avec les acteurs locaux et ça a structuré toute la révision du plan directeur commun. J'insiste sur l'intérêt, comme je l'ai dit tout à l'heure déjà, d'entrer rapidement dans le projet et de ne pas trop se perdre, c'était un autre but, de ne pas trop se perdre dans un diagnostic énorme et exhaustif. Donc très vite, on a aidé la commune à faire des choix, à identifier ce qui était vraiment important pour elle. Et après, on peut revenir sur un diagnostic pour documenter les éléments qui nécessitent d'être documentés. Mais on a vraiment très vite posé, parce qu'on a vite compris avec la commune ce qui était important pour le futur de la ville. Alors si je passe en revue quelques-uns, sans rentrer dans le détail de ces axes, je n'ai pas de pointeur, je vais essayer de vous montrer. J'en parle parce qu'après, certains des projets s'inscrivent dans cette continuité de ces grands objectifs. On a en haut à gauche, alors c'est des grands cercles qui entourent des secteurs importants de la ville et des secteurs d'intensité urbaine de la ville de Delémont. Et pourquoi on a dessiné ça? Ça a l'air très anodin. En fait, c'est pas très vite, on a identifié le centre-ville, la vieille ville, l'hôpital qui va devoir déménager, donc qui va quitter ce secteur, et puis au sud des voies, le futur développement de Delémont, c'est le secteur bien sud. Il y avait un moment où on a commencé à travailler, on a regardé le plan directeur précédent et on s'est aperçu que ça faisait plus de 20 ans, peut-être même 30 ans, que la ville essayait de constater que la vieille ville était en train de perdre son dynamisme au profit du centre-ville. Et puis toutes les planifications visaient à tenter d'amener toute la vie qu'il y avait à son commerce dans le centre-ville, de l'amener jusqu'à la vieille ville pour pouvoir l'animer. Alors ça a l'air tout bête comme ça, mais c'était extrêmement compliqué de trouver le moyen d'animer la vieille ville et de tirer cette animation depuis la gare jusqu'à la vieille ville. Là, je ne fais que relater un des grands objectifs des planifications à Delémont et un des grands soucis de la ville. Alors, une des choses qu'on a apporté en discutant avec les acteurs, c'est de se dire peut-être que finalement, on n'y arrivera jamais. Ce n'est peut-être pas nécessaire de faire vivre la vieille ville par le commerce et de la faire vivre par les mêmes par la même vocation que le centre-ville, qui a vraiment une vocation de centre-ville intense, où on regroupe toutes les fonctions urbaines. La vieille ville, c'est peut-être autre chose. Elle vit par ses espaces publics de qualité, par une certaine tranquillité, et peut-être par des fonctions qui ne sont pas liées à la consommation. Et on s'est dit, en partant de cette discussion, finalement, il y avait quatre secteurs avec des vocations, des formes urbaines, des espaces publics très spécifiques, et qu'il fallait admettre en fait ce fait-là, et que c'était peut-être des entités urbaines complémentaires et qu'il fallait reconnaître leur complémentarité plutôt que chercher à faire partout, créer partout la même intensité. Et donc on a défini à partir de là des objectifs de forme, de bâti, d'espace public, de vocation différenciée entre ces différents secteurs de la ville, et on a appelé ça la dynamique urbaine parce que c'est là que les choses se passent à Delémont, avec le futur justement d'un ville. On a une autre dynamique qui était aussi existante, c'était justement le plan directeur de la Sorne que j'ai évoqué tout à l'heure, qui venait d'être terminé. C'était d'abord un projet en fait d'aménagement d'ingénieurs pour lutter contre les crues. Delémont avait été noyé quasiment en raison d'une crue importante de la Sorne, et en particulier dans ce secteur où aujourd'hui on a aménagé un parc public et un écoquartier qui est en cours de développement. Et donc, il y a eu une nécessité d'aménager et de définir, en fait, disons de lutter contre les crues par un projet d'ingénieur. Et la ville a eu la présence d'esprit et l'intelligence de se dire peut-être que ce n'est pas qu'un projet d'ingénieur, il faut en faire un vrai projet d'animation des espaces publics, un vrai projet paysager pour la qualité de vie dans la ville. Et ce plan directeur, finalement, qui a été mené en collaboration avec des ingénieurs et avec des paysagistes d'Urbaplan, a été terminé juste avant le démarrage du PDCOM. Donc, l'intérêt, c'était de faire le relais dans le PDCOM de ce projet et puis de l'inscrire dans une vision d'ensemble du développement futur de la ville. Maintenant, on n'a pas une grande plus-value en intégrant cet axe dans le PDCOM. C'était simplement de reconnaître l'importance de cet axe qu'on a appelé l'axe paysager, par référence à l'axe urbain, et puis de se dire. En l'inscrivant dans le PDCOM, on l'inscrit aussi dans une vision d'ensemble du développement futur de la ville. Et puis après, alors je ne vais pas entrer dans le détail, on a des grands secteurs de développement de la ville de Delémont, gare sud, le centre-ville, ici avec cet écoquartier, le futur secteur de l'hôpital qui s'apprête à se libérer, et puis une grande zone d'activité d'intérêt cantonal qui s'appelle la Communance, pour des activités à haute valeur ajoutée et de haute technologie. Et puis tout un réseau d'espaces publics majeurs pour dire que c'est là que la ville va mettre le paquet, entre guillemets, en termes d'investissement, et qui connecte les différents quartiers entre eux. Et puis une chose aussi qui était quand même relativement importante, c'est que la loi sur l'aménagement du territoire venait d'être adoptée, et il y avait une nécessité de se déterminer sur les extensions éventuelles futures de la zone à bâtir. Et on était tous d'accord, on avait fait des calculs pour dire qu'il y avait assez de place à l'intérieur de la ville pour accueillir la population future qui était attendue, et qu'on pouvait délimiter en fait cette zone à bâtir de manière très claire, en qualifiant chaque tronçon de la zone à bâtir sur la manière dont on allait gérer la transition, les franges entre le bâti et les espaces agricoles, la forêt ou la grande plaine, avec des limites plutôt franches entre le bâti et les espaces ouverts, des limites avec des transitions paysagères, etc. Puis finalement, dans les débats politiques qui ont été très chauds à ce sujet, certains ont dit, certes, on a, du point de vue quantitatif, suffisamment de place, mais sur le plan qualitatif, on aimerait pouvoir encore offrir un certain type d'habitat, c'est-à-dire quelques maisons individuelles aux futurs habitants, et pas juste leur proposer des quartiers denses. Et donc, on a dû ouvrir certains endroits en disant peut-être qu'encore une rangée de villas, ça peut être possible, et puis on avait limité ça en termes quantitatifs, ça c'est un peu du bricolage, mais c'était le résultat d'une décision politique qu'on a dû intégrer. Voilà pour ces commentaires sur ces grands axes. Évidemment, tout ça se fait en collaboration dans le cadre de démarches participatives. On avait tout un groupe d'accompagnement politique de ce projet. Donc, on a fait beaucoup de démarches participatives pour bien se mettre d'accord sur ces grands axes du développement de Delémont. Alors, pour le centre-ville, je vais peut-être passer assez rapidement. L'idée, c'est de vous montrer un peu quelque chose de particulier à Delémont, je dirais. Et puis, c'est cette cohérence et cette continuité de la planification directrice jusqu'à la réalisation. Et on a assez peu l'occasion, en tant qu'urbaniste, bureau privé, d'être présent à tous les stades. Et donc là, c'était le cas, et j'aimerais vous montrer quelques exemples que je trouve assez admirables et exceptionnels. C'est aussi, et beaucoup, en raison de la continuité qu'il y a aussi au service de l'urbanisme de Delémont, avec une personne qui dirige ce service depuis, je pense, plus de 20 ans, 25 ans, et puis aussi la possibilité pour le bureau d'être là à chacune de ces étapes. Pour le centre-ville, on avait prévu, donc ça c'est pour vous montrer aussi la nécessité de conceptualiser parfois nos idées. L'idée c'était de savoir au centre-ville, est-ce qu'on veut faire partout quelque chose de très intense, de très dense. Les discussions ont montré qu'il fallait plutôt préserver une certaine qualité de vie qui existait, qui préexistait au centre-ville avec des quartiers résidentiels, quelques activités, et puis, si je le fais un peu rapidement, de s'appuyer sur les grosses locomotives en termes commerciaux, les moteurs commerciaux, avec un projet de coop aussi au nord, pour dire finalement il y a peut-être une boucle commerciale le long de laquelle on va prévoir de favoriser l'installation de commerce et d'activité, mais on ne va pas pouvoir tout animer partout de la même manière. Delémont, c'est aussi une ville qui n'est pas forcément aussi attractive, évidemment, que des villes de l'arc lémanique. Et donc, il fallait qu'on concentre les efforts sur certains secteurs. Et donc, on a défini cette boucle commerciale animée, et puis un centre, un cœur du centre-ville un peu plus calme et plus résidentiel. Et puis aussi un concept plus clair que ce qui existait, que ce qui préexistait en termes de structuration par des rues plutôt horizontales. Tout ça va déboucher sur des objectifs en termes de relation du bâti à la rue, et puis des passages plutôt dédiés à la mobilité douce, à des aménagements paysagers du nord au sud. C'est pas très important d'entrer dans le détail, c'est juste pour vous montrer la manière dont on a travaillé sur ce centre-ville. Ensuite, on a défini des principes d'aménagement. Alors je peux prendre quelques exemples où on disait par exemple, là c'est l'avenue de la gare, c'est la rue qui est la plus animée à Delémont, et un des principes c'était de dire qu'on poursuivait cette avenue par un front bâti, c'est des détails comme ça, un front bâti juste au bout de la rue,
Ici, on aura la COP, un nouveau quartier. Et donc, on tire un peu cette avenue de la gare un peu plus haut. On a prévu des aménagements d'espaces isolés, de repos, d'espaces publics. La transformation d'un îlot, sachant que la COP qui était là allait partir ici en disant qu'on allait transformer cet îlot pour y réaliser des logements, des activités. Renforcement de ces passages nord-sud en termes qualitatifs pour la création de chemins et d'aménagements paysagers. Et puis, des principes d'implantation du bâti le long des rues pour leur donner un véritable caractère de rue. Pour ceux qui connaissent l'événement, c'est assez distendu, je ne sais pas quel est le terme utilisé. On n'a pas vraiment une structure très claire. Et donc là, l'idée était de renforcer cette structure un peu urbaine le long des rues. Je passe très vite là-dessus. On avait d'autres principes qui touchaient à l'environnement dans le centre-ville et à la mobilité. Tous ces principes, vous voyez, sont spatialisés et localisés sur une carte. Donc c'est assez relativement concret. Puis ensuite, on a défini toute une série de mesures de mise en œuvre. Ce qui est important là, ce que je voulais le principal message, c'est qu'en parallèle à ce qui est un PDCOM relativement traditionnel, on était mandaté, c'est une autre collègue qui était mandatée pour faire un plan directeur des espaces publics du centre-ville. On travaillait vraiment beaucoup plus sur le qualitatif et le type d'aménagement, la hiérarchie de ce réseau d'espaces publics du centre-ville. Et encore une troisième chose, un autre mandataire jurassien cette fois-ci, était mandaté pour identifier des futurs, ce qu'on appellerait dans le canton de Vaud des plans de quartier. Et ici, peut-être des PLQ, donc de diviser ce centre-ville en sous-secteurs, définir des principes d'aménagement relativement précis. Et Delémont a cette particularité, c'est qu'ils avaient déjà ça d'ailleurs dans le précédent PDCOM, c'est de dire que dans la mesure où les projets qui se réaliseront dans ces périmètres-là, s'ils respectent les principes d'aménagement détaillés de ce qu'ils appellent les cahiers des charges, donc c'est des portions un peu de cette taille-là, dans la mesure où ils respectent ces principes d'aménagement, le conseil communal, qui est l'exécutif, peut décider qu'on peut se passer de plan spécial. S'ils ne respectent pas les principes, il va falloir faire un plan spécial, qui est l'équivalent d'un PLQ ou d'un plan de quartier, qui prend du temps, qui est compliqué. Mais dans la mesure où on respecte ces principes, on peut se passer de plan spécial. Alors, ça va faire l'objet d'une décision politique, et il faut que le projet démontre que il faut vraiment démontrer qu'il respecte ces principes. Et ça va juste. Donc, ces cahiers des charges sont définis en plan, avec des principes sous la forme de texte, mais également en 3D, ici, avec des principes, des volumétries, des relations à l'espace public, etc., qui sont relativement précis, mais qui laissent quand même pas mal de marge de manœuvre. C'est aussi le but, puisqu'on a un PDCOM qui va durer 10-15 ans. Il laisse de la marge de manœuvre pour les projets. Donc, il ne s'agit pas de figer et d'être trop déterministe au stade du PDCOM, mais de laisser pas mal d'ouverture au projet. Mais malgré tout, tout ça fait partie du plan directeur communal, a été intégré au plan directeur communal, et à ce stade déjà, on a des principes assez précis. Évidemment, ça ne se fait que pour le centre-ville, parce qu'il y a des enjeux très forts, en termes de densification, d'appel de population et d'activité. On ne va pas le faire pour tous les secteurs de la ville. Et puis, toujours pour montrer un peu cette continuité, donc là, c'est je vais vous montrer à quoi ressemble ce cahier des charges, avec ici des principes qui sont rédigés, donc pas mal de détails, le découpage du centre-ville en différents quartiers. Et puis récemment, donc dans ce secteur proche de la gare, ici, un projet qui a été développé, en concours en fait, et puis qui va se réaliser sans passer par un plan spécial, par un plan de quartier. Et donc on voit qu'à partir de principes extrêmement généraux qu'on peut trouver dans le PDCOM, une autre image, bon, juste un exemple, mais il y en a d'autres, on avait des principes d'implantation de bâti, avec par exemple cette continuité à créer, cette perméabilité piétonne à créer, qu'on retrouve dans la planche sur la mobilité, ici, et puis qui figure aussi dans le plan directeur des espaces publics, donc une assez grande cohérence, qui a été détaillée dans le cahier des charges de ce secteur. Et puis on retrouve ensuite, on arrive assez bien à lire en fait ce qui figurait sur ces plans dans ce projet, avec ici cette perméabilité vers le centre-ville. Donc une espèce de, comme ça, de. de continuité et de cohérence entre les planifications supérieures jusqu'à la réalisation, qui est liée au suivi très, très, très précis, très, très intensif et aux intentions très claires aussi du service de l'urbanisme. Un autre exemple, c'est la vieille ville. La vieille ville qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait un souci d'animation de la vieille ville. Je ne vais pas entrer dans les principes d'aménagement de la vieille ville. Parmi les actions à mener qu'on avait définies dans le plan directeur communal, il y a cette première action qui était de mettre en œuvre la stratégie de valorisation développée avec le réseau vieille ville, qui était une stratégie une réflexion qui était menée en vue d'animer, de trouver des leviers pour animer la vieille ville. Alors, il ne s'agit pas juste d'animer par le commerce, la réflexion elle portait sur aussi le fait de maintenir les habitants dans la vieille ville, des habitants, des familles qui n'ont plus envie de vivre dans un contexte, en tout cas de Léman c'était le cas, dans un contexte très minéral, avec de sortir de chez eux directement sur le trottoir, avec des rues qui avaient encore un trafic assez important jusqu'à très récemment. Et donc une ville qui se vide un peu, les propriétaires qui ont de moins en moins de moyens pour rénover, parce qu'ils n'ont pas d'habitants, et puis des commerces qui vont s'implanter plutôt dans le centre-ville que dans la vieille ville. Et ces objectifs qu'on a définis dans le plan directeur communal, ces actions, ont débouché très rapidement après par une séance qui portait le nom d'état généraux de la vieille ville, lors de laquelle on a réfléchi avec les habitants sur la problématique de l'animation de la vieille ville, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les problèmes, quels sont les souhaits de la population. Et un de ces souhaits, c'était de dire qu'il va falloir animer. Le problème, c'est l'animation des espaces publics. Il y a d'autres problèmes qui ont été identifiés. Mais un de ces problèmes, c'est l'animation des espaces publics de la vieille ville. Un constat de dépradation le samedi soir lors des sorties et le fait que les gens s'approprient peu en fait, ces espaces. Et les jeunes avaient tendance, d'après ce qu'on nous a dit, aussi facilement à casser le matériel public. Et donc il y avait un enjeu que la population se réapproprie ce centre-ville, qu'elle puisse participer aussi à définir les aménagements de la vieille ville. En espérant comme ça avoir à éviter aussi les problèmes qui étaient constatés. À partir de ces états généraux, on a travaillé en démarche participative avec un groupe qui était vraiment amené à travailler sur l'animation des espaces publics pour dire c'est où est-ce qu'il faut faire des aménagements, quel type d'aménagement et comment on va réussir à animer la vieille ville. Ils ont abouti à pas mal de propositions, dont une bonne partie est en train d'être mise en œuvre sous la forme d'aménagements éphémères. Je peux vous montrer ici. Donc, l'idée, c'était vraiment d'utiliser ce qui existe déjà, d'avoir une économie de moyens. Donc, on a déjà des éléments, des bacs en béton dans la vieille ville, et d'essayer de les détourner, de les réaménager avec des choses très simples, des bancs, de la végétation. Le faire avec la population, il y a des ateliers protégés qui travaillent là-dessus, il y a le service de la voirie qui travaille là-dessus. Donc avec des moyens très réduits de constituer ce mobilier urbain pour réanimer des espaces de la vieille ville, de faire des potagers urbains. Et puis dans la cour du château qui est aussi une cour d'école, voilà, ce ne sont pas des jardins, mais c'est des peintures qui vont être faites, créer des espaces ludiques pour les enfants avec des jeux comme un labyrinthe. Donc, tous des aménagements éphémères pour expérimenter ce que pourrait être la vieille ville dans le futur. Donc, de nouveau, quelque chose d'assez concret qui est en train de se réaliser dans ce secteur. Et puis, alors, le nom de cet axe paysager de la Sorne, des projets très concrets. Donc, ça, vous avez en haut le plan directeur de la Sorne qui est en force. Et puis, aujourd'hui, dans les détails, mais tout ce qui était prévu dans le plan directeur a été quasiment réalisé. Et le dernier en date, c'est l'espace public ici. C'est cet aménagement de ce qu'on appelle aujourd'hui le parc public de Dolémont. Donc un parc assez important, dont l'inauguration aura lieu bientôt. Et vous voyez qu'il y a cette préoccupation, c'est pas juste un espace public, c'est aussi un secteur où on gère les crues. Vous avez la côte Vincimone qui est ici, en fait, donc l'eau est montée jusque-là. On a rappelé ça avec des petites échelles qui descendent éventuellement, sachant que toute cette partie peut être inondée. Voilà, un espace public, je pense que c'est assez réussi. Et pour dire que tout ce qui a été défini dans ce plan directeur est quasiment réalisée aujourd'hui. Et on a vraiment l'implantation des grands équipements publics avec le stade, appartenant à la piscine, donc tout ce qui est lié aux loisirs et à la formation qui s'implante le long de la Somme, avec la réalisation d'espaces publics qui accompagnent ces aménagements. Et ici, le futur écoquartier en cours de réalisation. Voilà les deux images de cet espace public qui est en train d'être terminé, que je viens de vous montrer. Et puis ce souci également de créer une identité visuelle. Donc on a dessiné aussi au bureau, après on peut penser ce qu'on veut, mais il y a des motifs, un type de matériau avec de l'acier galvanisé, des motifs qu'on retrouve tout du long, donc une certaine uniformité qu'on va retrouver sur les passerelles, dans les espaces publics, et même sur le traitement du béton ici, où on trouve en fait ce motif, là où il y a une gestion en fait, des eaux. D'avoir aussi cette identité visuelle tout le long de la Sorgue qui constitue le véritable espace urbain, paysager urbain. Et puis ensuite, on a des quartiers qui sont en dehors de cette dynamique urbaine et de cette dynamique paysagère, des quartiers qui sont plus résidentiels, plus tranquilles, pour lesquels on a peu de propositions à faire. Les enjeux principaux, c'est l'aménagement, c'est de préserver la qualité des aménagements, et de connecter ces quartiers en termes de transport public et de mobilité douce. Mais il n'y a pas d'enjeu de développement particulier, si ce n'est une parcelle qui restait à développer depuis plusieurs années dans ce secteur ici, qui s'appelle c'est dans le quartier du Crat des Fourches. Et en 2011, la commune, donc vous voyez cette grande parcelle verte, c'est une parcelle de 10 000 m² qui appartient à la commune. Et ça fait un moment que la commune, pour construire des logements, souhaite développer cette parcelle. Et en 2011, par référendum, le projet développé par la commune avait été refusé par la population. Petite pause, je profite de voir un petit peu. C'est un petit peu une claque pour la commune parce qu'ils avaient fait un projet qu'ils jugeaient plutôt bon. Mais ils l'ont fait un peu en catimini, sans trop en parler à la population, sans associer les habitants. Et ils se sont plantés finalement au moment du référendum. Donc c'est vraiment cette démarche qui a été critiquée par la population, cette démarche sans consultation. En plus, les habitants ont pu voir des projets qui n'étaient pas vraiment les projets pour cette parcelle, mais qui ont cru voir des projets qui ne leur plaisaient pas, et donc il y en a qui sont montés aux barricades, et ça a fait un gros flop. Et pendant 5 ans, il ne s'est rien passé. Et donc la commune a décidé en 2016 de relancer le processus, mais en nous demandant comment on peut faire ça. Comment est-ce qu'on peut faire participer la population pour que cette fois ça marche? Et donc on a mis en place une démarche avec les habitants, dont cet article se faisait le relais. Là c'est juste pour vous rappeler que dans le plan directeur communal, on avait quelques principes qui étaient définis, en disant, il est très simple, que les modalités d'urbanisation de ce site étaient à définir dans le cadre d'une démarche participative. Finalement la commune répondait à cette proposition en lançant cette démarche. Sinon, on avait prévu une centralité de quartier à créer, et puis le maintien d'un verger, en tout cas de se questionner sur le maintien ou le déplacement d'un verger qui présentait certaines qualités en matière paysagère et environnementale. On a proposé une démarche en 3 temps, enfin 4 temps même, avec une séance d'information publique, lors de laquelle nous avons expliqué la démarche à la population de Némontaine. On a constitué un groupe de suivi, un groupe de travail lors de cette séance d'information. Donc on a demandé aux personnes intéressées, en limitant le nombre à 20-25 personnes, on l'a constitué ce jour-là, donc les gens pouvaient venir s'inscrire après la séance d'information. Et on a travaillé, on a fait 3 ateliers en réalité, avec la population. Il y avait des habitants du quartier, mais il y avait aussi des gens de la commune, des habitants de la commune. Puis on a fait une séance de restitution, deuxième séance d'information à l'issue de la démarche pour expliquer à quoi on était parvenu avec les habitants. Vous verrez, je vous présenterai, ça aboutit à une charte en fait, concernant qui constitue en fait le cahier des charges d'un futur concours ou plan spécial. Et puis ce qui est assez intéressant et que j'ai beaucoup aimé dans cette démarche, c'est que c'était vraiment très concret parce qu'on a ce n'était pas des paroles en l'air, on a travaillé avec les habitants, on s'est vraiment mis d'accord, ça a été chaud parfois, on s'est vraiment mis d'accord sur des éléments, vous verrez, très simples en fait, mais qui les éléments importants que les habitants souhaitaient préserver ou renforcer, les qualités du quartier. On a fixé dans une charte et en plus, ces éléments de la charte ont été traduits dans le règlement communal sur les constructions. Les plans de zone étaient en cours et les éléments qu'on a définis avec la population ont été inscrits dans le plan de zone, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste un cahier des charges, ce ne sont pas juste des intentions, mais ces grands principes font partie du règlement et donc lors du concours, il faudra les prendre en compte. C'est une garantie assez importante en fait pour les habitants, la population. Et pour ne pas repartir sur des documents de planification un peu abstraits, on a décidé de faire des dessins assez simples. Donc on a traduit dans une première planche ce que disait le PDCOM, le plan directeur communal. Et puis c'est à partir de planches comme ça qu'on est allé vers les habitants. On leur a donné des planches de ce type-là sur lesquelles ils pouvaient peut-être plus facilement dessiner que sur des plans très abstraits d'urbanistes. Et c'est vrai qu'ils ont osé le faire, ils ont osé nous dire et dessiner ce qu'ils attendaient du futur quartier. Donc des démarches en plus, on a travaillé dans une école primaire du quartier, on a fait une visite avec eux du quartier, et donc ils travaillaient sur des petites tables d'enfants, comme ça on les mettait un peu en difficulté, en situation, c'était assez rigolo en plus. On a vraiment travaillé 3 soirées de manière assez intensive pour définir les grands principes d'aménagement de ce quartier, qui a donné lieu à cette charte en vue de l'organisation d'un concours et de la réalisation d'un plan spécial d'affectation. Et cette charte, sans entrer dans le détail, vous voyez qu'on a défini des grands objectifs et des principes un peu plus précis. C'est assez simple, mais c'est important et les gens ont pu vraiment s'approprier. Ce n'est pas du blabla, voilà, c'est des choses qu'on a essayé de formuler avec le vocabulaire aussi des participants. Avec des schémas presque simplistes, mais qui en disent assez long et qui sont suffisamment précis pour définir un cahier des charges. Donc on a traité de la mobilité, des espaces, du paysage, espace extérieur, programme et forme bâtie, et puis un résumé, une planche de synthèse des 10 objectifs principaux de cette démarche, avec des perméabilités à créer, des vues à préserver. La question du verger n'a pas été tranchée, donc on la laisse pour le concours. Et puis tous des principes aussi de mobilité, d'accès au quartier. Donc ça c'est l'article de fin. Et puis cette inscription dans le règlement communal sur les constructions, où on explique ici que le secteur concerné est soumis à la procédure du plan spécial obligatoire. Il sera établi en tenant compte des résultats de la démarche participative, en particulier de la charte validée par le comité consultatif. Donc là, on a vraiment un ancrage dans le règlement de cette démarche. Voilà, en fait, j'ai fait le tour, j'espère que ce n'était pas trop long, de différents exemples. C'est assez simple ce que je vous montre, mais c'est vraiment pour vous montrer cette particularité, cette cohérence entre les planifications jusqu'à la réalisation, et puis peut-être une posture aussi, le projet qu'on a adopté à Dolémont. Travaille aussi en toute confiance avec le service de l'urbanisme.
Merci.
On va couper l'enregistrement pour les questions, comme ça vous vous sentez libre.